Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, en compagnie de Yann Kerjoin à la technique. Cette émission a lieu chaque jeudi, elle est diffusée à 13h15 et 19h15. On peut l'écouter également, en plus du direct, on peut l'écouter sur internet www.radiofmplus.org. Et les émissions sont possiblement écouter sur les podcasts de Radio FM+. Je reçois aujourd'hui dans Jardin d'Isis Anne-Marie Jean-Jean. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Et nous allons parler de la poète Anna Akhmatova. Anne-Marie Jean-Jean a écrit un recueil « À toi, elle, la seule » qui est paru en 2010 aux éditions Les 100 regards. C'est un hommage donc à la poète Anna Akhmatova qui se veut certes reconnaissance de dette, mais avant tout acte de mémoire, que celle-ci ne s'émousse pas et vivifie le présent. Anna Akhmatova est née à Odessa en 1889. Elle est décédée en 1966 à Moscou. Poète adulée, icône des lettres russes, muse de Modigliani, Anna Akhmatova sera censurée, traquée, persécutée par le régime soviétique. Refusant de fuir, exilée de l'intérieur, elle fait de la poésie son maquis, sa résistance, sa liberté. Une première question qui est pour moi une évidence auprès de Anne-Marie. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce recueil autour de cette poète Anna Akhmatova, Anne-Marie?
Parce que la lecture de l'avant-propos de son requiem a été une lecture décisive pour moi. Alors je lis cet avant-propos. Dans les terribles années de la tyrannie de Iéjov, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant la prison à Léningrad. Une fois, quelqu'un m'a identifié. Alors, la femme aux lèvres bleues qui était derrière moi, elle n'avait évidemment jamais entendu mon nom, s'est réveillée de cette torpeur qui nous était propre à toutes et m'a demandé à l'oreille, là tout le monde parlait en chuchotant, « Et cela, vous pouvez le décrire ?» Et j'ai dit « Je peux. » Alors, quelque chose comme un sourire est passé sur ce qui autrefois avait été son visage. Donc, ce sont des lignes qui ont été écrites à la fin des années 30, qui ont été publiées bien plus tard, en 63, je crois.
Vous dites, Anne-Marie, il y a eu un avant et un après, Anna Akhmatova, votre découverte de cette poète.
Parce que, par exemple, cette dernière phrase, « Alors quelque chose comme un sourire est passé sur ce qui autrefois avait été son visage », pour moi, était absolument bouleversante, parce qu'on part d'une situation donnée à quelque chose qui a été dans le passé. Un vrai visage dans le passé. Donc ça, c'était esthétiquement extrêmement fort. Mais en même temps, ça prouvait qu'il existait une autre réalité que ce qui était montré officiellement. Voilà. Et ça, ça a eu une incidence majeure sur ma façon de rechercher. Et ça a eu un impact sur... Mais ça a débordé, bien évidemment, la poésie. Hein. Ça a débordé dans plein d'autres disciplines. Donc, j'avais une dette énorme à régler par rapport à ce texte-là et à son attitude à Anna Akhmatova. Puisque ça a eu un impact sur la recherche et bien sûr sur la façon d'envisager la poésie et l'écriture.
Pour en revenir à la vie d'Anna Akhmatova, en 1921, elle commence à être mise à l'index lorsque son mari, accusé de conspiration, est fusillé. Et elle sera mise à l'index tout au long de sa vie. Son fils sera emprisonné également de nombreuses fois. C'est un beau recueil que vous avez publié, Anne-Marie Jean-Jean. Pouvez-vous nous dire quelques mots autour de la maison d'édition ?
Alors, c'est l'édition des Sans Regards, édition qu'on peut retrouver sur le site de la Villa des Sans Regards, qui est fondée et dirigée par Michel Fressos. Il a accepté de publier deux de mes écrits, et c'est une très, très belle collection.
Oui, de qualité, avec un très beau papier. On peut parler de livres d'artistes, ce sont des livres numérotés. Pouvez-vous nous dire quelques mots de l'artiste qui a réalisé les dessins, s'il vous
Alors,
plaît.
C'est Kroschka, ce sont les encres de Kroschka, et qui sont en profonde résonance avec le texte, puisque son père est d'origine russe, elle est très sensible à tout ce qui touche la culture russe. Et elle a exposé, elle expose, elle est à Paris, aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Et elle a également exposé à la Villa des Sans Regards, où on avait donné une lecture de ce texte-là.
Pouvez-vous nous donner une explication quant au titre « Toi, elle, la seule » ? Il m'avait semblé que le « toi » pouvait être multiple finalement, mais je vous laisse répondre, Anne-Marie.
Alors, la seule, voilà. Parce que là, on est en 1946, donc sous la férule de Jdanov, qui voulait corriger tout ce qui était la normalisation du langage et de la pensée. Elle, Anna Akhmatova, condamnée une fois de plus au silence, on est en 46. Qui bat la semelle sous ses fenêtres, jour ou nuit ? Qui photographie très ostensiblement ceux et celles qui lui rendent visite ? Qui importe peu ? Qui est au service d'eux ? Qui, un petit engrenage de la grande machinerie de mort et de desservelage ? Le soupçon s'accroche aux gens, aux murs, aux objets, aux tombées de plâtre, aux bruits de pas, au silence soudain. Pas besoin d'un panopticum de verre sophistiqué. Même certains amis, protecteurs entre guillemets, se révèlent invisibles rouages du dispositif de surveillance permanente qui l'entoure. Tombée de plâtre, bruit de pas, silence soudain, œil, oreille, toujours en alerte, savoir se taire. Mais pour elle seule, une cage aux barreaux invisibles. À Leningrad, immobile dans sa chambre ou dans les rues, en n'importe quel lieu, en d'autres villes, la cage invisible se déplace avec elle. Elle sait dire « c'est joli » poliment à quiconque prétend faire un compliment, une louange suspecte.
Vous avez choisi un autre extrait.
Alors ça, c'était pour la seule et pour le toi. Toi, écrivant mentalement sans répit, sans papier, sans crayon, le clavier de la mémoire te suffit. Tu continues, tu dis et redis, change un mot, rajoute une expression, t'imprègnes d'un nouveau rythme, en invente un autre. Tu continues, sachant que le tic-tac du cœur maintes fois a failli s'arrêter. Qu'il peut s'arrêter net à l'instant. Qu'importe, l'essentiel pour toi, ta liberté d'esprit critique. Garder cette capacité critique bien vivante, tout à fait, et subtilement opérante, envers et contre tout, dans le travail incessant de ton écriture, et féconde jusqu'à nous.
Pour moi, on ne peut lire la poésie de Anna Akhmatova sans parler de l'acméisme, un mouvement poétique russe qui est né au début des années 1910, qui allie simplicité, concision de la langue. Est-ce que cette tendance a eu une influence sur le style de votre écriture dans ce recueil, Anne-Marie ?
Je crois que j'étais déjà sur ce chemin, de toute façon. Mais l'acméisme, on dit qu'il y a des influences de la poésie française, notamment les parnassiens, mais Bon, ils ont dû adapter en fonction de la musicalité de leur langue et des choses. Bon, moi, je ne suis pas russophone, donc je ne peux pas aller très, très loin là. Mais l'écriture d'Akhmatova était quand même très remarquée dès 1916 par les linguistes et les critiques. Hein. Donc, elle a demandé avec Mandelstam en 1913 d'arrêter ce mouvement qui était très... qui subissait les contre-attaques des autres, et il y avait d'autre part les futuristes qui étaient extrêmement bruyants, envahissants, et auxquels elle était très attentive néanmoins, jusqu'à la fin.
C'est l'occasion de parler du lien d'amitié avec le poète
avec
Mandelstam.
Avec Mandelstam, bien sûr, oui, oui.
Nous écoutons un extrait d'une valse composée par Chostakovitch. Et vous citez Chostakovitch dans votre recueil, ce n'est certes pas un hasard, Anne-Marie.
Non, parce qu'il a été important pour elle, bien sûr.
Vous disiez qu'elle avait emporté des partitions
de Chostakovitch. Une partition lorsqu'elle s'en va à Tashkent et qu'elle se protège. Oui, oui. Dans ses bagages, il y a une partition de Chostakovitch.
Votre recueil, donc, on l'a déjà dit, c'est un hommage à Anna Akhmatova. Il se présente sous la forme d'un récit biographique et agencé par date. Vous accompagnez la poète au cours des différentes périodes de sa vie. Et dans votre recueil, vous commencez par cette année 1921.
Oui, 1921, parce que c'est l'année où son ex-mari Goumilov est fusillé. Soi-disant parce qu'il a participé à un complot monté de toutes pièces par la Tchéka. Et à partir de là, l'enfer va se renforcer pour Akhmatova, non seulement en tant que femme, comme on l'a vu dans l'extrait du Requiem, mais aussi en tant qu'écrivain. C'est ce à quoi je fais allusion dans ce fragment.
Vous avez choisi de lire un extrait, justement, autour de
l'obligation de cette pratique particulière qu'elle avait. « Toi, sous surveillance permanente, dans une petite chambre de l'appartement collectif. » Oh, parler très bas, n'est-ce pas ? Murs, plafonds, portes, fenêtres, tout n'est plus qu'oreille. à de rares proches de confiance dire les poèmes, les faire dire et redire jusqu'au par cœur. Jusqu'au moment où tu peux brûler très vite le chiffon de papier. Soulagée, elle regarde son écriture dévorée par la flamme dans le cendrier. Rite cruel, obligé, répété, des années et des années. Elle n'a plus grand-chose, en étant 38, elle n'a plus grand-chose que l'essentiel, quelques textes dans une mallette, certains seulement dans sa mémoire. Il a fallu vendre quelques livres, puis des livres, puis tous les livres, y compris des tableaux, et seulement survivre dans le casse-tête des traductions, obligé, forcené, pour un peu de monnaie, et encore, quand on voulait bien lui en accorder.
Oui, ce thème des poèmes brûlés revient fréquemment dans ses poèmes. On les retrouve dans son écriture. Vous avez choisi un autre extrait qui se déroule peut-être à Tachkent, je ne sais pas, ou à Moscou.
Non, c'est un peu plus tard. Alors, elle est à Tachkent. Elle écrit donc toujours.
1941.
Mais elle est réfugiée là-bas avec un certain nombre de gens, grâce à Tchoukovski du reste. Et de là-bas arrive le serment, un petit poème, misérable chiffon de papier, publié en première page de la Pravda, ce qui est extraordinaire. Placardé de plus sur les murs de Leningrad assiégé. Qui pourra maintenant parler d'une poésie lyrique, désuète, aristocratique et contre-révolutionnaire? Plus tard, je crois que c'est vers 42-43, elle lit en public, à Moscou, 3000 personnes l'applaudissent debout. Elle a lu, aussi froide qu'une nonne, sans regarder le public, comme dominée par sa propre intériorité, comprenant que la ferveur spontanée la mettait en grand danger.
Et vous me disiez à ce propos, le ressenti des gens est plus fort que la peur.
Voilà, c'est ce qui s'est passé là, oui.
À propos d'Anna Akhmatova, vous pensez qu'elle est oubliée des références, enfin vous me disiez qu'elle est, vous la ressentiez comme oubliée des références poétiques majeures du XXe siècle. Ceci malgré son immense popularité de son vivant en Russie. Immense popularité qu'on peut illustrer ainsi, ses recueils interdits circulaient sous le manteau. Vous dites qu'elle n'est pas assez citée ici en France, ni même lue.
Oui, je trouve qu'elle n'est pas assez connue en France, mais on peut compter sur quelqu'un qui l'a traduit, c'est Sophie Benesch, puisqu'elle a traduit récemment des textes qui sont « Élégies du Nord ». Oui. on peut penser que Sophie Benesch est sur ses traces de manière très... très profonde, et ça c'est très réjouissant.
C'est important, oui, d'avoir des traducteurs pour les œuvres.
Et c'est une merveilleuse traductrice.
Oui. Est-ce que vous avez un autre extrait, Anne-Marie, pour le moment, ou sinon on reviendra sur ce début de 21e siècle, où vous faites un parallèle finalement entre la situation de l'époque et puis notre vécu actuel.
Disons qu'en 2008, on avait fait un portrait d'Akhmatova, justement avec Alfia Fabre, qui est d'origine russe et qui avait projeté des photos. Et on avait fait un portrait à la Maison des Relations Internationales, invité par la Maison de la Poésie. Et c'est ce qui a donné lieu à ce texte plus tard. Voilà. Et donc, effectivement, je faisais une comparaison avec ce troisième millénaire qui avait soulevé des tas d'enthousiasme. Mais bon, il faut se rendre à l'évidence.
J'ai souhaité vous offrir une lecture en russe, donc deux poèmes d'Anna Akhmatova qui seront lus par moi en français et lus en russe par Shabnam Salezada. Épigramme.
Épigramme. Могла ли Биче словно Дан творить? Или Лаура жар любви вославить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?
Béatrice, comme Dante, a-t-elle créé, ou l'or, célébré la fièvre de l'amour? J'ai appris aux femmes à parler. Dieu, comment les contraindre à se taire? L'œuvre, en russe, par Shabnam Salezada.
Творчество. Бывает так, какая-то истома, в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома. Неузнанных и пленных голосов мне чудятся и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один, все победивший звук. Так в круг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать. И просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь.
Et c'est ainsi, une lassitude. Le choc des heures ne se tait plus. Le tonnerre au loin a cessé, plaintes et gémissements de voix inconnues et captives. Un cercle se crée, se rétrécit. Mais dans cet abîme de chuchotements et de tintements, un seul se lève qui les domine tous. C'est le calme autour, et on entend dans la forêt comme l'herbe pousse, et sur la terre comme va le mal et sa besace. Mais déjà les mots se sont fait entendre, et le bruit des rimes légères est un signal. Alors je commence à comprendre et les lignes dictées s'allongent dans le cahier blanc comme neige. Poème Couronne pour les morts de Profondis. Ma génération n'a pas eu beaucoup de miel. Voici que seul le vent gronde dans le lointain. Seul chante le souvenir des morts. Notre tâche n'a pas été achevée. Les heures nous étaient comptées. Jusqu'à la distribution d'eau, jusqu'au sommet du grand printemps, jusqu'à la floraison folle, il ne nous restait que le temps d'un souffle. Ma génération, deux guerres ont éclairé ton terrible chemin. Et c'était écrit en mars 1944 à Tachkent. Nous allons revenir avec Anne-Marie Jean-Jean sur ce que vous écriviez en cette année 2008 du troisième millénaire.
Alors, le même manège tourne donc depuis des siècles, des siècles. En jette, en russe, en chinois, nous écrivons la même misère et les conséquences de l'humain non réalisé. Ici, la culture, exilée, pas encore exsangue, pas encore tout à fait. À force d'entendre le verbiage sucré des boîtes à mensonges qui nous lessivent le cerveau, en ce 21e siècle, plus que jamais, ces lignes écrites par Akhmatova, entre guillemets, il faut des dizaines et des dizaines d'années de dressage pour habituer les gens à cette léthargie, à une vie sans vie, fermez les guillemets, plus que jamais doivent s'inscrire dans notre mémoire. Voilà pourquoi, encore et encore, certains s'en vont, réciter, réciter pour les pierres, réciter pour le vent, pour que d'autres voix vibrantes s'envolent, loin des marées de l'indifférence, pour que la mémoire reste vivante. Mais question délicate, comment se forme une poète ? On ne sait jamais trop comment se constitue à chaque génération ces inutiles bourgeons, dotés simplement d'une incoercible écriture, d'une déraisonnable folie de la langue et de son prochain, mais quel plus fragile et solide esquif que la trace de l'encre.
Vous disiez, Anne-Marie, cet inutile bourgeon, est-ce que vous pensez vraiment que le poète...
Non, justement, je le contredis après. Oui. J'utilise l'expression parce qu'elle est, compréhensible par les gens qui agissent en fonction de ça. Mais cette solidité fragile est quand même là, toujours, à travers le temps.
Et voici quelques lignes écrites par Anne-Marie pour illustrer ce qui se passe en ce moment.
Donc, ignorance et non-pensée pour tous. Meilleur garant pour les trusts Big Ubu et compagnie. Desservelage en douceur à domicile. Le troupeau s'agrégera au tout grand chef bien-aimé qui saura faire le meilleur marketing politique pour ravis joyeux. Les bons sentiments... Quelle solide ficelle pour manipuler les marionnettes et qu'ainsi, main dans la main, pouvoir et prédation se perpétuent jusqu'à complète dévastation. Riez, détendez-vous, nous décidons pour vous. Riez, bottes, verrous, chaînes, mais non, riez, distrayez-vous, détendez-vous, ne pensez à rien d'autre qu'à rire. Riez donc, riez.
Vous me disiez, lorsque nous nous sommes rencontrés, que la poésie est gênante, ainsi que tous les arts, pour contrer cette unique pensée.
Bien sûr, puisque dans tous les arts, les artistes ont une très très grande liberté, hein, que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre, etc. Mais je pense qu'au niveau de la langue, en ce moment, la poésie a vraiment fort à faire et elle ne s'en prive pas, elle est très vivante et c'est tant mieux.
Merci Anne-Marie, j'espère que vous les auditeurs avez aimé découvrir cette grande dame de la poésie russe Anna Akhmatova, ainsi que les textes en miroir écrits par Anne-Marie Jean-Jean dans « Toi, elle, la sœur, le ». Anna Akhmatova, exilée de l'intérieur, fait de la poésie sa terre de résistance. Elle vit dans la menace, le dénigrement et la misère, mais elle ne fuit pas la Russie. Elle a, par sa poésie, exprimé le ressenti de millions de personnes et le vécu douloureux du peuple russe pendant cette période du stalinisme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans Jardin d'Isis pour d'autres découvertes en poésie chaque jeudi, 13h15, 19h15. À bientôt autour de la poésie.